Alors, on est à J-7 aujourd'hui de l'UTMB, J-7 donc, ce vendredi. Eh bien, ça y est, nous y sommes, nous sommes à une semaine de l'événement. Alors, que dire à 7 jours de l'événement? Eh bien, à part que, même si c'était déjà un petit peu le cas la semaine passée, cette fois-ci, ça y est, grosso modo, l'entraînement est fini. C'est-à-dire qu'hier, j'ai réalisé mon dernier effort, entre guillemets, physiologique. Et aujourd'hui, c'est un jour de repos. Alors, c'est un jour de repos, pas tout à fait, puisque je suis sur l'animation de la Sky Race de l'échappée belle, ce qui a quand même nécessité de se réveiller à 5h15 et de se coucher. Bon, il y a le petit plateau TV, là ça va, je vais pas me coucher trop tard. Et demain, ce sera pareil, avec un réveil assez tôt, voilà, vers 4h pour donner un autre départ. Donc aujourd'hui, c'est un repos un petit peu, voilà, on fait pas de sport, mais finalement, on passe pas la journée allongé dans le canapé, avec les bas de compression, patati, patata. Mais voilà, bah, c'est une journée de travail classique, quoi, on peut dire. Et donc, à ce moment-là, on est à une semaine de l'événement, je suis dans un jour off, et derrière, il n'y a plus d'entraînement difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de qualité physiologique à développer. En une semaine, vous n'allez rien développer. Et en une semaine, vous n'avez rien le temps de perdre non plus. Par exemple, si vous êtes à l'entraînement, si vous faites une semaine de repos au plein milieu d'un cycle de FMA, bah, c'est un petit peu embêtant parce que vous n'avez pas fini votre cycle. Donc vous n'avez pas créé toutes les adaptations nécessaires. Par contre, si vous faites une semaine de repos après votre cycle de VMA et vous passez ensuite, je sais pas moi, un cycle de seuil ou de force ou de ce que vous voulez, eh bien ce n'est pas très grave. Puisqu'en une semaine, vous n'avez pas de désadaptation, hein, le physio, voilà, ça va pas se désadapter. En une semaine, il n'y a rien de grave qui peut se passer. Hein, c'est au bout de 2 semaines qu'on commence à perdre un petit peu. Alors vous allez me dire, bon bah Hugo, bah, c'est facile, ce que tu fais pour être tranquille, tu fais 7 jours de repos jusqu'à l'UTMB. Alors, ça partirait d'une bonne idée, mais finalement, en fait, en trail, et puis bien sûr en ultra, il y a un petit problème qui se crée, c'est que vos muscles, ils vont un peu s'endormir. Alors là, je vais grossir le trait, mais disons que si vous ne les sollicitez pas toutes les 48 heures, bah, tous les petits capteurs un peu nerveux, ils vont s'endormir, et il est possible que le réveil pendant l'UTMB soit un peu difficile. Il est possible que dans la première descente, vous ayez des douleurs bizarres, qui ne sont pas vraiment musculaires, parce que vous n'allez pas perdre en muscles, mais qui sont surtout nerveuses. Donc, toutes les 48 heures, en fait, je vais faire un petit effort en chemin. Donc, par exemple, demain, je fais une longue randonnée en altitude pour refaire un peu de retourner un petit peu haut, puisque ce soir, je vais dormir bas. Et dimanche, eh bien, je fais une sollicitation avec 1000 mètres de dénivelé. Tranquille, hein, montée, marche, bâton, descente fluide, sans excès. Le lundi, je vais refaire un repos. Donc là, je vais faire un bon repos. Je ferai rien de la journée, lundi. Ouais, j'irai voir un pote là qui fait la haute route, Patrice Juret, mais sinon, je ne ferai rien de la journée. Le mardi, eh bien, à nouveau, je fais une sollicitation. Alors celle-là, elle va être très légère. Je vais aller marcher 2-3 heures, tôt le matin. Voilà. Le mercredi, je ne fais rien. En plus, le mercredi, ça va être très pénible, puisque je descends de Tignes, je retourne à Chambéry. À Chambéry, je vais faire tout mon sac. Le fameux test PCR pour adhérer à la nouvelle religion. Et la prise de sang, bien sûr. Ça, par contre, ça va me fasciner pour avoir les résultats de ce stage en altitude. Et le jeudi, eh bien, à nouveau, voilà, une demi-heure le matin de footing, vraiment calme. Avant le départ, vendredi à 17h, donc 30-36 heures après mon footing. Voilà, donc pour rester parfaitement en condition au niveau des jambes, tonique, etc. Mais je ne vais pas faire de dernière séance. Donc voilà, aujourd'hui, je récupère tranquillement. Voilà, je suis sur la ligne de départ, d'arrivée, et puis le soir un petit peu plus calme sur le plateau TV. Et donc je vais en profiter pour répondre à quelques questions, puisque hier j'ai posté le plan alimentaire de Seb. Alors, je n'ai pas eu le temps de me le réapproprier, mais dimanche soir, vous aurez le plan alimentaire et comme je l'ai mis, moi, pour mes ravitaillements, c'est-à-dire quand ils me demandent de manger telle ou telle barre, telle ou telle chose, eh bien, comment je fais concrètement pour l'amener, comment je fais concrètement pour m'en rappeler tout au long de la course, etc., etc. Donc dimanche, je vous donnerai le déroulé, mon roadbook perso, celui que mon assistant saura, ma mère, ma copine, voilà. Parce que bah, quand vous avez votre plan nutrition dans les mains, finalement, rien n'est fait. On vous dit sur telle section que tu consommes ça, ça et ça. Oui, ok, mais en pratique, comment je remplis, etc., etc. Donc ça sera pour dimanche. En attendant, je vais répondre à quelques questions. Il y en a eu pas mal, bien sûr, encore pas mal de nouveaux patriotes. Je pense que ça peut vite être le bordel sur le Patreon. Et donc, à la fin de tout ça, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Mais en fin de tout ça, je vais faire un livre audio. Alors évidemment, pour les patriotes, ce sera cadeau. Et ainsi, ceux qui nous rejoignent vers la fin du Patreon, bah, finalement, ils vont pouvoir comprendre un petit peu depuis le début. Donc voilà, le temps de compiler tout ça, je sais pas, peut-être ce sera disponible courant septembre, quoi. Mais j'avais ça dans l'idée. Alors, quelques questions, donc aujourd'hui, pendant ce petit jour de repos, avec Antoine Renaudino, qui nous dit... Antoine, donc hier je faisais ma séance de seuil à vélo, et en fait j'ai mis une minute de plus que le temps de Dorian Godon. Et c'est amusant parce que Dorian, eh bien pour l'instant, il est leader sur le Tour du Limousin. Bref, ce que me demande Antoine, au-delà de me rappeler ce fait de course, donc voilà, Antoine est au courant du cyclisme, hein, pour suivre le Tour du Limousin, faut déjà être un sacré passionné. Il me demande, niveau alimentaire, de quoi sera composée ta dernière journée, celle du jeudi. Eh bien, Antoine, elle va être très simple, ma journée du jeudi. Et je pense que celle du mercredi va y ressembler également. À deux jours de l'événement, j'arrête de manger des légumes. Et à partir de lundi, je pense, même pourquoi pas dimanche, je vais arrêter de manger des légumes crus. Donc... dimanche, lundi, mardi, je vais manger des courgettes que je vais faire cuire à la poêle avec de l'eau. Je vais manger des betteraves cuites. Voilà, c'est un petit peu les légumes que j'ai en ce moment-là. Mais pas de salade, pas de carottes crues. Voilà, rien de qui peut un peu abîmer l'estomac, même si c'est pas vraiment le cas. C'est vrai que ça peut vous rendre sensible. Et ensuite, en fait, à partir de mercredi, je vais même plus m'embêter. À ce moment-là, je vais carrément enlever les légumes de ma diète, enfin de ma nutrition. Et tu vas me dire, ouais, mais pourquoi ? Eh bien, pour une raison relativement simple, c'est que ça accélère le transit. Et moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup aux toilettes dans la journée, donc ça ne me dérange pas du tout en temps normal, mais pendant une course, bah, c'est un peu chiant. Donc finalement, je vais volontairement me constiper pour la compétition. Donc en fait, qu'est-ce que je vais manger ? Je vais manger du riz, ça va être ma source de glucides. Pour l'accompagner, eh bien, je prendrai, je sais pas moi... 2 œufs ou une petite tranche d'escalope de dinde. Voilà, une petite viande blanche tranquille qui se digère gentiment. Mais on va pas faire des trucs un peu tarabiscotés comme les sardines, du boudin, tout ça. J'en mangerai dimanche pour la dernière fois du boudin. Donc en fait, c'est marrant, mais plus tu te rapproches de la compétition et plus tu dégages tous les aliments santé. Eh oui! Malheureusement, et c'est là où peut-être on s'éloigne du sport santé, c'est que pour réaliser une compétition à son meilleur niveau, ben faut qu'on ait une vidange gastrique parfaite, faut qu'on ait le bide blindé, quoi, collé, quoi. Et ça, je vais l'obtenir avec le riz, que je vais manger, riz thaï, riz basmati, on s'en fout. Et puis après, ben, en dessert, je prendrai sans doute une banane, quelques noix, mais vraiment dans une portion divisée par deux, par trois peut-être. Pareil pour le chocolat noir, je vais en manger un petit carré, et puis voire même au lieu de manger un 90%, je sais pas, je vais descendre sur un 70%, tu vois, on verra. Bon, là, on pinaille, mais c'est pour te dire. Et donc, tu vois, Antoine, eh bien, le jeudi, je peux te le dire, je vais manger un petit déjeuner classique, donc 2 œufs à la coque, quelques noix, et puis, en fait, au lieu de... Et puis mon roquefort habituel. Le midi, bah, ça va être une assiette de riz. Et une banane aussi le matin. Le midi, ça va être une assiette de riz. Ça va être une viande ou une omelette. Ça va être un petit peu de levure de bien dessus, ça va être quelques petites noix pour faire la transition avec le dessert, et en dessert, en toute simplicité, une banane et un petit carreau de chocolat noir. Peut-être un yaourt de chèvre éventuellement. Alors après, la dose de riz, et le soir ce sera pareil. Ce sera une copie, pareil. Et au goûter, au lieu de manger énormément d'eau oléagineux, eh bien j'aurai une bonne portion de flocons d'avoine ou de sarrasin, je verrai ce que j'emmène, avec une petite purée d'amande pour donner du goût et encore une fois un fruit. Donc ça va être très répétitif mercredi, jeudi, vendredi, mais en fait si tu veux c'est un moment donné où j'arrive pas à table pour passer un bon moment, un repas, voilà, des goûts, des saveurs, je m'en fous. En fait à partir de mercredi je suis tellement dans ma course pour vendredi, à penser au sac, aux affaires, etc., que le repas j'arrive et je l'aborde mécaniquement. Comme un robot, tac 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 tac, je fais ça. En fait, même sur tous les plans, jusqu'à vendredi, je vais suivre une to-do list, tu vois, tout ce qu'il y a à faire avant la course. Et hop, tu ratures, dès que tu fais, tu ratures, tac, ok, ça c'est fait, on n'en parle plus, ça c'est fait, on n'en parle plus, etc. Donc le plan devient vraiment draconien à l'approche de la course. Alors on pourrait dire, oui, mais on profite pas de la vie, patati patata. Oui, bah c'est pas grave, j'ai 360 autres jours de l'année pour profiter de la vie. Moi j'ai investi du temps et de l'argent sur cet UTMB pour le réussir correctement, donc ça me fait aussi plaisir de l'aborder de la meilleure des manières avec une préparation chaque jour qui s'intensifie, pas physiquement mais comment on pourrait dire, logistiquement. Donc voilà, après au niveau des quantités, ben c'est vrai que Sébastien Diefenbrom voulait me faire une décharge puis une recharge. On va peut-être en parler avec la question suivante. Et donc c'est possible que jeudi, je sois encore sur des quantités conséquentes, mais je pense que ce sera surtout mardi, mercredi. Voilà, je vais laisser faire. En attendant, qu'est-ce qu'il m'a dit Seb? Il m'a demandé uniquement d'essayer de manger le moins de glucides possible vendredi et samedi, donc aujourd'hui et demain. Voilà. Une petite question de Bruno Bordaneil, bah justement, on y vient, salut Hugo, vas-tu faire une recharge glucidique avant l'UTMB? Si oui, comment vas-tu procéder? Eh bien Bruno, je t'ai déjà donné quelques petits éléments de réponse ici, c'est-à-dire que je n'en mange quasiment pas, d'ailleurs aujourd'hui j'ai mangé une banane et une pomme, ce sont mes seules sources de glucides en ce moment à 17h, le reste du temps j'ai mangé énormément de noix, de chocolat à 85% et de fromage. Voilà Bruno. Et donc, dimanche, après ma séance de 1000D+, je vais recharger. Donc j'imagine, en me basant sur ce que j'ai fait avant, que dimanche midi, l'assiette va être composée de 120 g de riz pesé cru, d'une collation le soir légèrement augmentée en glucides, et d'un repas le soir légèrement augmenté en glucides. Et puis je pense, mais ça sera confirmé dans les prochains jours, donc tu l'entendras ici sur le podcast, que lundi, mardi, ça devrait être pareil, peut-être aussi mercredi, à mon avis, jeudi, plus un retour à la normale avant la course de vendredi. Alors Bruno, il avait une autre question, un petit peu l'alimentation, et j'ai l'impression qu'il est torturé quand même avec l'alimentation, Bruno. Moi, je m'en pose moins des questions. En fait, j'ai un coach nutrition qui me donne un plan alimentaire à la semaine. Mais franchement, je dois respecter peut-être 70% du truc. Et mentalement, mais je ne me sens absolument pas coupable. En fait, j'aime bien avoir sous les yeux ce qu'il faut faire, en théorie, pour être au top. Voilà. Donc ça, je l'ai sous les yeux. Le plan alimentaire, soi-disant le meilleur, patati patata. Et derrière, par rapport à mes journées qui ne ressemblent à aucune autre, et c'est là que je trouve que c'était beaucoup plus facile quand j'étais ingénieur, puisque pour le coup, du lundi au vendredi, toutes mes journées se ressemblaient. Donc c'était très facile de prévoir les repas. Et en plus, vu que j'avais pas trop de temps pour manger en étant ingénieur, puisque je m'entraînais le matin, le midi et peut-être des fois le soir, j'arrivais, je prenais un tupperware, je mangeais. Donc ce tupperware, bah, je l'avais préparé le soir. Il y avait pile ce qu'il fallait dedans. Moi, de toute façon, j'avais pas le temps de chipoter si est-ce que, tiens, je me resservirais un peu du truc, du machin, du bidule. Et donc je mangeais ce que j'avais prévu direct. Alors que là, bah, vu que j'ai un peu plus de temps dans la journée, c'est vrai que je suis un peu plus sujet aux différentes tentations, ou à me resservir, ou à pas forcément peser tel ou tel truc. Donc Bruno, il me dit, voilà, quand tu fais un entraînement le soir, un truc un peu dur, admettons du seuil, et que ton coach te dit de manger au moins 60 grammes de riz cru, alors là, Bruno, je sais pas, peut-être tu nous fais une petite crise d'anorexie, mais c'est ridicule. Tu vois, moi, pour recharger les batteries après une bonne séance, c'est au moins 100 grammes de riz cru, hein. Minimum. Hein. Et là, je te fais fi des glucides qui sont contenus, alors oui, il y en a moins, hein, évidemment, dans la portion protéique, dans la viande, dans les légumes, dans l'huile d'olive, etc. etc. Il me dit, voilà, quand tu manges ton riz lentille le soir, ce que j'ai beaucoup fait ici à Tignes, puisque j'avais le temps de cuisiner et tout, donc voilà, riz lentille le soir. Il me dit, voilà, mais du coup, si t'as fait du seuil avant et qu'il t'a dit de manger 60 grammes de riz cru, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les ajoutes bêtement? Bah, j'ai envie de te dire, Bruno, oui, parce que mon association riz lentille, qui au final représente 60 grammes de riz cru et 60 grammes de lentilles crues, je crois. Enfin oui, c'est ça. Si tu veux, je me fais plus chier à compter, en fait. Qu'est-ce que je fais? Je prends une très grosse casserole. Je mets les lentilles dans de l'eau dedans. Dès que c'est à ébullition, tu comptes 20 minutes. Au bout de 5 minutes, tu rajoutes le riz parce qu'il va cuire un petit quart d'heure, là, le riz semi-complet. Et à la fin, t'égouttes ta casserole. Qu'est-ce qu'il en sort? Du riz et des lentilles. Impeccable. Je mets ça dans un tupperware. Le truc fait au moins 5 jours. Et donc, je mets les deux paquets, c'est 2 fois 500 grammes. Et ah bah non, ça dure un peu plus que 5 jours en fait. Moi, ouais, j'essaye de le faire durer une semaine, ce qui fait que tous les soirs, voilà, je dois manger. Ouais. Et en fait, si j'ai fait un entraînement extrêmement difficile avant, admettons j'ai fait du seuil de 18h à 19h30, eh bien je ressors mon riz lentille. Parce que ce riz lentille me permet d'avoir ma portion protéique. Je rappelle l'association des acides aminés du riz et des acides aminés des lentilles vous permettent d'avoir tous les acides aminés importants, donc les 8, pour le développement musculaire. Ou du moins sa réparation. Donc je sors ma portion classique de riz lentille. Et suivant l'effort qui a été fait avant, eh bien j'ajoute effectivement une portion de riz pesé cru, ou ça peut être, je sais pas, un dessert fruité, tu vois, une salade de fruits l'été, des choses comme ça. Donc je garde bien sûr cette portion riz lentille, qui en fait est plus là pour la portion protéinée, même si elle apporte aussi des glucides, parce que je rappelle qu'à côté je mange ni viande, ni poisson, ni œuf le soir, et j'ajoute ce qu'il faut pour couvrir les dépenses d'un effort violent le soir, juste avant de manger. Donc ça peut être 40, 60, 80 grammes de riz. Bon, là, ça ferait peut-être un peu beaucoup déjà avec le riz lentille. Mais voilà, une fois que j'ai la bonne combinaison, eh bien, j'ajoute quelques glucides supplémentaires. Puis ça peut être des pâtes, hein. Hier soir, je me suis fait des raviolis. Bon, ben voilà, je suis pas mort. Encore une fois, c'est là tout l'intérêt de manger clean le plus souvent possible. C'est qu'hier soir, j'ai mangé des raviolis. Bon, ben, j'ai ni été malade ni rien. Alors, par contre, c'est vrai que du coup, avec le gluten, j'ai fait un petit peu plus de rétention d'eau que d'habitude. Et sur la balance, ce matin, bah, j'affichais facilement 500 grammes de plus. Mais tu verras que quand est-ce que je vais me peser dimanche matin, bah, ils auront disparu. Voilà. Donc évidemment, maintenant que j'ai... En fait, j'en avais très envie. Hier, je voulais vraiment des pâtes fraîches. J'en avais très envie. Ça devenait limite psychologique. Donc je les ai mangés hier, j'ai fait ma petite rétention d'eau derrière qui était liée à ça. Et du coup, bah, toute la semaine prochaine, je vais pouvoir tranquillement manger mon riz sans état d'âme, puisque je me suis fait plaisir un petit peu avant, tu vois. Donc gustativement, j'en aurais plus envie. Et voilà, tout va bien. Alors, Rémi Cayol qui me demande, Rémi que je remercie pour la livraison à Tignes de notre commande One DeFi avec la Malto. Est-ce que pour une distance aussi longue, une séance déblocage est nécessaire ? Eh bien, je ne pense pas, Rémi. Je pense que ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que on va... Certes, ça va aller un petit peu vite jusqu'aux douches. Encore que, voilà, on va courir à 15 km/h sur le plat. Moi, courir à 15 à l'heure sur le plat, je peux le faire pendant 2 heures. J'ai pas essayé plus, mais à mon avis, je pourrais aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui va me nécessiter un échauffement. Donc, encore moins de déblocage, en fait. je vais faire un footing la veille en variant un peu les allures, mais juste pour pas tomber dans une monotonie d'un footing de 30 minutes à 11 km/h qui me ferait chier. J'aurais fait une marche avant, donc j'aurais vu du paysage. Non, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire un quelconque déblocage. Notre cardio va être très bas hein, au début. C'est vrai que les gens souvent nous disent « Ouais, vous êtes parti vite, vous étiez à 15, 16. » Mais pour nous, c'est pas aller vite. Par exemple, un Jim Wamsley en dessous de 18 km/h, bah, il se fait un peu chier, tu vois. Jim Wamsley, pendant 6 heures, il a couru à 16,5 km/h. Donc dis-toi bien qu'à 15, le mec, il va être pépère, il va être en footing. Alors après, c'est vrai que cette année, moi, j'ai un petit peu peur de ça, parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas bossé la vitesse à plat. Mais finalement, ça reste assez inné, si tu veux, quand j'ai commencé à courir. Tu pouvais me faire courir une heure à 15 à l'heure, ça allait pas me buter. Donc ça va rester, ça va rester, c'est ce qui fait partie des acquis. Voilà, voilà mon petit Rémi, je pense que c'est inutile. Après, si des coureurs de devant le font, bah, je pourrais éventuellement en discuter avec eux, mais à ma connaissance, très peu de gens le font. Alors après, on a beaucoup de gens qui, comme moi, la veille, font un petit footing, histoire de sentir un peu les muscles, de se sentir un peu vivant, de sortir aussi un peu de son logement, parce que c'est vrai qu'on passe tellement de temps à se reposer toute la journée les 2 ou 3 jours avant. Alors certes, il y a la sortie du dossard qui est très très pénible, mais on est aussi pas mal à l'intérieur. Alors, hormis ce petit footing là, à 30-40 heures avant, Rémi, non, je ne vais pas pratiquer de déblocage, je ne suis pas intimement convaincu, il faudrait peut-être poser la question à un coach, mais je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Après, celui qui en a envie et qui déborde d'énergie peut faire, je sais pas, moi, peut-être 5 x 30-30 à plat, mais sans aller vraiment à 100%. Tu vois, si t'as une VMA à 20, bah, tu vas aller faire un 18-19. Il peut faire 2 x 2 minutes en côte, à peu près l'allure du seuil. Il peut se faire une descente de 100 à 200 mètres de dénive pour se mettre un peu dedans. Pourquoi pas? Mais ça va vraiment suivre l'envie, parce que bah, si tu commences à te forcer la veille, c'est embêtant, c'est qu'il y a un problème, je pense. Maintenant, il faut voir aussi ta prépa. Moi, ma prépa, elle est aboutie, j'ai validé toutes les séances du coach. Donc là, maintenant, je me laisse glisser jusqu'à la course. Après, j'ai l'impression, là, je lisais tout à l'heure sur Facebook, que Germain Grangier a eu un petit souci au pied, et du coup, il n'a pas pu faire la prépa tout à fait comme il le voulait. Alors, c'est possible que lui, dans la dernière semaine, il en fasse un peu plus que les autres, parce que finalement, il aborde cette dernière semaine plus reposé que les autres, et lui, par contre, a besoin de se remettre en condition. Tandis que nous, enfin en tout cas ceux qui ont vécu une bonne préparation sans accro, n'ont pas besoin de se mettre en condition, puisqu'ils le sont déjà, ils ont juste besoin d'attendre le départ dans les meilleures dispositions. Voilà mon petit Rémi, et puis après j'avais une question de Benjamin Paulin, notre patriote supersonique, Benjamin qui doit avoir une moyenne à 180 km par semaine sur Strava. C'est celui que vous voyez toutes les semaines en tête du classement. Et qui, en plus de ça, fait d'excellentes performances. Il a gagné un 80 bornes vers chez lui, là, je sais plus ce que c'était. Et Benjamin, arrête-moi si je dis une connerie, mais je crois que tu es engagé à la CCC. Et donc, Benjamin, qu'est-ce qu'il me dit? Salut Hugo, tu parles du temps que tu pourrais perdre à attendre les noix de cajou au ravito. En parallèle, on a déjà vu des vidéos de Xavier Thévenard ou d'autres qui répète le ravito afin de perdre le moins de temps possible. Ma question est donc, penses-tu vraiment que des courses longues comme les ultras peuvent se jouer sur le pit stop le plus rapide comme en F1? Sans aller jusque là, j'ai regardé un Grand Prix de Formule 1 il y a un mois ou deux, c'est bluffant. Les mecs changent des pneus, j'ai même pas le temps de cligner des yeux. Cela ne risque-t-il pas de générer un stress inutile et une prise de risque à vouloir faire tout rapidement? Eh bien, c'est là que tu te trompes, Benjamin. On ne veut pas faire rapidement. On veut faire les choses dans le temps qu'il faut pour les faire. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que, moi, quand je dis que ça m'embête de perdre un petit peu de temps pour attendre mes noix de cajou, parce que je vais devoir les demander à un bénévole qui va me servir, en fait, je trouve que ça sert à rien. Et on gagne beaucoup plus de temps en arrivant, hop, en tendant la main, en servant et en repartant. Tu vois, ça prend 3 secondes. Les noix de cajou, je les ai prises et je suis parti. Tandis que là, j'ai, je sais pas, peut-être une minute de battement à chaque fois qui va être perdu pour rien. Donc, c'est pas qu'on veut se presser pour faire les choses, c'est juste qu'on veut faire les choses dans le temps qui est imparti. Par exemple, cette année, j'ai décidé de changer de vêtements. Alors, suivant la météo, je vais le faire en Contamine, je vais le faire à Courmayeur, je vais le faire à Champer, on va voir. Mais j'ai décidé de changer de vêtements et de passer une nuit vraiment confortable. Je ne veux à aucun moment voir des frissons sur mon corps et grelotter. Je pense que je vais économiser de l'énergie. Donc, pour ça, je m'impose un arrêt un peu plus long parce que je vais devoir enlever mon sac, enlever le t-shirt, remettre un pull, ou l'inverse, enlever le pull, remettre un t-shirt. Mais ça, je veux que ce soit fait rapidement. Je veux qu'enlever mon sac, ça prenne 2 secondes, pas que je sois en train de papoter avec je sais pas qui à côté. Donc je veux que mon assistance, en fait, me rappelle ce que je dois faire, clac, 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 une to-do list qui défile, pour que ben, je perde pas de temps de manière inutile. Par exemple, l'exemple le plus concret l'an passé, c'est à l'échappée belle. J'avais pas donné la consigne à mes parents qui me faisaient l'assistance, et je suis arrivé au super collège, je me suis arrêté 20 minutes. J'en avais pas besoin. En 5 minutes, j'avais enlevé mes chaussures, j'avais noqué mes pieds, j'avais remis mes chaussettes, j'avais remis mes chaussures, et j'avais mangé ma purée de pommes de terre à ce moment-là. Donc tout était fait en 5 minutes. Et j'avais remis un t-shirt. Pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis resté 20 minutes au ravitaillement. Pourquoi ? Parce qu'après, j'ai discuté avec machin, on a parlé de l'avancée des courants devant, etc., etc. Moi, j'étais assis et je voyais pas le temps passer, en fait. Et les gens te parlent, tu leur réponds, ça te sort un peu de ta course. Ça, c'est pas grave. Mais du coup, quand je suis reparti, bah, au lieu d'avoir perdu 5 minutes au ravitaillement, j'en avais perdu 15. Donc, en fait, mon ravitaillement qui durait 5 minutes, eh bah, j'ai perdu un quart d'heure dessus. Pourquoi ? Parce que j'étais pas concentré, parce que j'ai pas fait les choses dans l'ordre et parce que j'ai pas été rigoureux. Alors tu vas me dire, tu vas me sortir l'excuse de « Bah oui, mais du coup, ça t'a plus reposé, et derrière, t'as pu repartir plus fort. » Bon, déjà, c'est pas vrai, après, j'ai fait que baisser de rythme. Et en fait, en plus de ça, moi, quand je m'arrête longtemps, me demande pas pourquoi, c'est depuis que je cours, mes deux tendons d'Achille, et... C'est quoi, c'est... Ouais, c'est le droit, il couine vraiment. Mes deux tendons d'Achille deviennent tout raides. Dès que je m'arrête de courir, ils deviennent tout raides. Donc c'est super chiant. Quand je suis reparti du super collet, bah, je boitais comme un débile alors que je suis arrivé normalement parce que je me suis arrêté trop longtemps. Donc voilà pourquoi je veux pas le refaire. Ce que je veux faire, c'est arriver au ravitaillement, faire ce que j'ai à faire et repartir. Voilà, je veux pas me dire merde là, putain, j'ai pitaillé 2 minutes, ça servait à rien. L'an passé, à la folie, je suis arrivé en fringale, j'étais perdu dans le ravito. J'ai demandé une soupe, j'ai discuté avec le bénévole parce qu'il me l'a proposé au vermicelle ou à la truc de riz, là je sais pas quoi. Il m'a prêté un bol, j'en avais pas, donc j'ai négocié un petit peu parce qu'en fait dans mon petit gobelet plastique, bah ça rentrait pas, ça me brûlait les mains. Finalement, elle était trop chaude, j'ai soufflé dessus et tout. Du coup, en fait, boire une soupe à la folie, ça m'a coûté 13 minutes. C'est quand même cher payé pour boire une soupe. Donc en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arriver à la folie, quand on est en fringale, prendre des aliments solides, les mettre dans les poches et repartir avec et les manger progressivement. Déjà parce que quand t'es en fringale, faut pas faire un gueuleton directement. Mieux vaut manger relativement de manière assez conséquente, mais linéaire pendant 20 minutes, une demi-heure. Et c'est comme ça que l'énergie revient progressivement et qu'on se bloque pas au niveau du ventre. Alors après, Benjamin, tu peux me dire, ouais, mais c'est une source de stress parce que chaque fois que t'arrives à un ravitaillement, tu dois te rappeler de tout ce que tu dois te faire, etc. Et ben là, je suis d'accord avec toi parce que je vais quasiment tout apprendre par cœur. En plus, moi, j'ai une très bonne mémoire qui me permet de faire ça. Mais pour finalement pas me dire oh là là je me rappelle plus ce que je dois faire etc panique et tout, ce que je vais faire en fait c'est que je note tout sur des petits papiers. Donc ça c'est ce que je vais vous montrer dimanche. J'ai un papier, le titre c'est Chamonix Contamine. Là dessus tout est écrit ce que je dois faire. Je mange ma baou à tel endroit, je remplis une gourde à Saint-Gervais, patati patata. Après, j'ai un autre papier que mon assistance me donne aux contamines, où c'est marqué tout ce que je dois faire des contamines à Courmayeur. À tel ravito, je remplis, à tel ravito, je mange une noix de cajou, etc., etc. Et pareil pour toute la suite de la course, en fait. Et quand je suis sur un ravitaillement avec mon assistance, là, je suis tranquille, parce que eux, ils lisent le papier que j'aurais préparé, donc ils savent exactement ce qu'ils doivent noter, ce que je dois faire. Est-ce qu'ils doivent me donner la frontale? Est-ce qu'ils doivent me reprendre la frontale? Est-ce qu'elle sera vito, j'enlève les chaussures, je mets un peu de knock et on repart, etc., etc. Donc tout est marqué sur le roadbook et ça je vous le prépare et je vous le mets dimanche et vous allez comprendre simplement. Alors c'est sûr que c'est du temps de préparation, c'est long à faire, mais derrière, bah, le jour de la course en fait tu lis une partition de musique et en théorie tout se passe bien. Enfin, Évidemment, tout ne se passera pas bien. Sinon, c'est pas de l'ultra, c'est pas drôle. Mais au moins, moi, j'arrive au départ de la course. Je sais que j'ai fait le taf. Et en fait, toi qui pensais que ça allait me stresser, bah finalement, je suis hyper zen. Parce qu'en fait, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se comment ça va se dérouler. J'ai mon pense-bête sur moi. Mon assistance a simplement une feuille à lire. C'est très simple. Tout le monde a tout compris. Et c'est parti en avant Guingamp. Et après, bah malheureusement, les problèmes qui vont survenir, c'est des problèmes qu'on n'aurait pas pu anticiper, parce que c'est des problèmes nouveaux. Voilà. Donc voilà, Benjamin, pour te répondre. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on se retrouve demain pour le J-6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que demain, à part vous raconter ma rando du jour, je vais pas faire grand-chose. Et puis dimanche, par contre, là, bah, je vais bien vous expliquer justement ce roadbook, comment je le fais. Pour ceux qui sont sur Patreon depuis longtemps, bah vous les avez vus passer. C'est ce que j'ai fait pour le EDF Trail Valsony, pour l'Oisans Trail Tour mi-juillet 2020, EDF Valsony début août 2020, le Grand Trail du Lac mi-octobre 2020, et le Swiss Canyon Trail début juin 2021, et le 90 du Mont Blanc fin début juillet 2021. Pour ceux qui sont un petit peu nouveaux sur Patreon, bah vous avez juste à remonter dans les articles. Alors par contre, j'en ai publié beaucoup, donc vous allez beaucoup remonter. Et vous allez trouver aussi ces petits roadbooks. Mais effectivement, celui du TMB est un peu plus conséquent. Et alors, une dernière astuce avant de vous quitter. Tu vois, Benjamin, là j'ai passé du temps à le faire. J'ai pas tout à fait fini, je le finirai dimanche. Mais ce qui est bien, c'est que l'an prochain, hop, je le ressors du placard. Et maintenant que j'ai mes habitudes, je les ai prises en juillet 2020, ces habitudes-là. Donc, j'ai pas de document d'avant. Donc, je ressors du placard et j'affine par rapport à ce que j'ai vécu en 2021. Et donc, en fait, je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont allés dans des cours d'automatique. Moi, c'était le cas dans mon diplôme génie électrique et électronique. Vous faites une correction au coup par coup. Non, je me rappelle plus le terme technique exact. Déjà parce que bon moi les études j'y allais pour faire plaisir. Donc voilà, je vous laisse ici. Si vous avez quelques questions, avec grand plaisir, demain j'y répondrai. Et puis sinon, ce sera dimanche pour les explications justement de ce petit roadbook maison. Allez, salut.